Bonjour à tous. J'ai bien aimé le texte qu'Alain Pierre vient de lire, dans la traduction en tout cas dans laquelle il vient de lire, dans la bouche de Job, dit qu'il est un chercheur de Dieu, en quelque sorte, un chercheur de Dieu. Et je pense que chacun de nous nous présentons quand nous venons ici, que nous ouvrons la parole de Dieu, nous nous présentons un peu comme aussi des chercheurs de Dieu. Venons à l'écoute. Je n'ai rien à vous dire. Je plie ma Bible, je rentre. Non, je n'ai rien à vous dire. C'est la parole de Dieu qui a tout à nous dire et je vais vous inviter à l'ouvrir, à conduire quelques réflexions, mais je voudrais que ce soit elle qui nous parle. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, les versets 3 à 9, nous allons lire une petite histoire, ces rencontres un peu fulgurantes que Jésus a eues à plusieurs reprises dans son ministère avec des personnes, plusieurs fois des femmes d'ailleurs, au cours desquelles il a distillé un enseignement d'une importance considérable. Et peut-être qu'une lecture un peu hâtive de la parole nous fait passer à côté de cet enseignement que le Seigneur veut nous donner. Donc l'histoire de cette rencontre. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Mais à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cette scène se déroule 5 ou 6 jours avant la crucifixion de Jésus-Christ. On est dans ces derniers jours où vont se passer un certain nombre de choses, où vont se dire un certain nombre de choses, en particulier de la part de Jésus-Christ, qui sont très pathétiques. Et je pense qu'il faut se mettre un peu dans cet état d'esprit. Jésus sait, Jésus a annoncé, Jésus l'a dit à tous ceux qui l'entourent, mais bien peu l'ont compris, cette femme l'a compris, que quelques jours plus tard, il va mourir. Il y a 3 protagonistes dans cette histoire. Jésus, une femme et un certain nombre de personnes qu'on ne connaît pas. Un autre évangile nous donne une petite indication sur une de ces personnes, que j'appellerai ici les indignés. Au verset 4, ils expriment leur indignation. Appelons-les les indignés de cet acte de Jésus. Assez rapidement, je voudrais passer sur une première chose qui ressort de ce texte, mais ce n'est pas peut-être ça le cœur de ma réflexion ce matin. On pourrait facilement taxer Jésus d'égoïste et cette femme un peu d'irresponsable. Ce dont les témoins indignés, dont je parlais il y a quelques instants, vont accuser Jésus et cette femme, c'est de poser le problème dans ces termes. Jésus ou les pauvres ? Les uns ou les autres. Cette femme a choisi Jésus, les autres auraient choisi, eux, les pauvres plutôt. Jésus ou les pauvres. Et dans sa réponse, en quelques mots, Jésus va laisser entendre que son enseignement à ce sujet-là, sur l'utilisation d'une partie de nos ressources, une part non négligeable en ce qui concerne cette femme, se pose plutôt dans les termes « Jésus et les pauvres ». Jésus, aujourd'hui, Jésus dit, vous m'avez aujourd'hui avec vous et pour peu de jours encore, et les pauvres, toujours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait conciliable. En somme, celui qui sait aimer Jésus sait aussi aimer les pauvres. Celui qui sait donner à Dieu d'une façon libérale et généreuse, il sait aussi donner aux pauvres parce que chez lui, il s'est peut-être passé quelque chose qui est si important dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes et que Jésus détaille à d'autres moments dans son enseignement, où Jésus parle de ce Dieu mammon, je l'appellerai Dieu argent puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est que lorsque l'on sait donner à Dieu, probablement on a remporté la victoire et on a triomphé sur le Dieu argent qui est au fond de chacun d'entre nous, Dieu d'attachement à ce que nous avons, à cet instinct de propriété que nous avons, et étant libéré de l'adoration, de l'esclavage de ce Dieu argent, nous sommes alors en mesure de donner aux pauvres. Jésus veut dire aussi probablement ici que celui qui a, ou celle en l'occurrence ici, qui a la foi pour verser sur la tête de Jésus ce parfum précieux d'une valeur de 300 deniers, qui ne nous dit pas grand-chose à chacun de nous, mais sachant que c'est le salaire d'une année de travail d'un ouvrier à l'époque de Jésus, celui qui donc a la foi pour donner de plein cœur avec une telle générosité à Jésus-Christ une telle somme, nécessairement, il a aussi la foi pour donner jour après jour, puisque c'est à cela que le Seigneur invite cette femme et les indignés, donner toujours, donc jour après jour, tous les jours, de quoi pourvoir aux besoins des pauvres. Donc Jésus, il ramène cette équation Jésus ou les pauvres à une autre équation Jésus et les pauvres. Mais sur ce texte, c'est autre chose sur lequel j'aimerais vraiment plus particulièrement attirer notre attention. C'est la démarche de cette femme. Et Jésus, à propos de la démarche de cette femme, il dit quelque chose d'important à la fin de ce récit. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, chacun, même ceux qui connaissent peu la Bible, sont au courant de cette histoire de cette femme qui a versé sur la tête de Jésus un parfum de grand prix. Elle est restée dans la mémoire universelle comme étant un modèle de l'amour que l'on peut avoir pour les autres. Ce n'était pas une question de montant, en quelque sorte, parce que peut-être un ou deux jours avant, Jésus, dans un autre récit, c'est dans Marc au chapitre 12, le verset 41, on peut le lire ensemble. Jésus était assis dans le temple et il était devant le tronc où on déposait ses offrandes au temple de Jérusalem. Et plusieurs riches mettaient beaucoup, question de montant. Il vint aussi une pauvre veuve et elle aussi. Tout le monde s'en souvient de cette histoire de la pauvre veuve. On ne les a pas oubliés. Personnage même pas nommé ici. D'autres évangiles nous disent que le premier récit que j'ai lu, c'est Marie. Mais la pauvre veuve, aucun évangile ne nous dit même son nom. De ces anonymes qui, dans le parcours de vie de Jésus-Christ, ont témoigné d'une manière particulière leur amour pour le Seigneur et leur générosité pour Dieu. Il vint, cette pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors, je n'ai pas calculé la proportion par rapport aux 300 deniers de tout à l'heure, mais c'est énorme. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc ce n'est pas une question de montant. C'est une question d'amour, de dimension de l'amour que l'on peut avoir pour le Seigneur. Ça, c'est la première chose qui, dans la démarche de cette femme, me parle et nous interroge peut-être. Quelle est notre dimension d'amour pour notre Seigneur, pour notre Dieu ? Nous avons été invités tout à l'heure à manifester à notre Seigneur notre reconnaissance c'est-à-dire aussi l'amour que nous avons pour lui, pour tout ce qu'il fait pour nous, mais aussi notre adoration, c'est-à-dire pour tout ce qu'il représente pour chacun d'entre nous, la place importante qu'il occupe dans notre vie. Mais il y a un autre aspect dans la démarche de cette femme qui m'intéresse, et c'est au verset 7 et 8 qu'on la trouve. Cette femme, Jésus dit qu'elle a fait ce qu'elle a pu, verset 8. Et je voudrais relever trois verbes dans ces deux versets 7 et 8. Jésus dit aussi, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez et vous ne m'avez pas toujours. Il y a trois verbes qui sortent de ces deux versets. Les verbes, et ces verbes, ils font toute la différence. Le verbe pouvoir, le verbe vouloir et le verbe ensuite faire. Et on a là un processus de décision qui s'est dessiné chez cette femme et qui n'a rencontré aucun obstacle, aucune objection. Pouvoir, elle pouvait. Elle avait cet argent, peut-être de 300 deniers chez elle, qu'elle avait économisé au fil d'années, peut-être. Ou alors elle avait déjà chez elle, parce qu'elle l'avait reçu en héritage ou je ne sais quoi, ou elle l'avait acheté. Elle avait pour 300 deniers d'un parfum de nard, qui est un parfum qui est recueilli sur les pentes de l'Himalaya, qui était donc importé en Israël et qui avait un énorme prix, à tel point qu'on le mettait dans une fiole scellée pour qu'il n'y ait pas de contrefaçon. Vous voyez, qu'on ne soit pas tenté de le mélanger un petit peu pour l'étaler et le vendre à bon prix. Donc elle est venue, elle a cassé cette fiole, elle l'a répandue sur la tête, et un autre évangile nous dit aussi sur les pieds de Jésus. Cette femme, elle pouvait. Cette femme, elle voulait aussi. Elle voulait parce que son amour et sa reconnaissance pour le Christ étaient à ce point élevés, parce qu'elle avait compris peut-être mieux encore que les disciples de Jésus-Christ qui le suivaient depuis longtemps, que Jésus, dans quelques jours, allait donner sa vie. Parce que Jésus a très bien analysé la raison pour laquelle elle a décidé, à partir du moment où elle voulait, dit... C'est en quelque sorte comme un embaumement d'avance de mon corps pour la sépulture. Cette femme savait que c'était probablement le dernier geste d'amour qu'elle pouvait faire pour le Seigneur, qu'elle avait côtoyé par ailleurs. Un autre évangile nous dit que c'était Marie de Béthanie. C'était la sœur de Lazare. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ça nous dit quelque chose de la reconnaissance, du montant de reconnaissance qu'elle devait à son Seigneur qui avait ressuscité son frère. Et au pied de ce Seigneur, elle avait passé des moments qui étaient des moments précieux. Et sachant que c'était probablement le dernier moment venu, elle a voulu. Elle a voulu casser la fiole. Faire, eh bien, elle l'a fait. Elle n'a pas hésité. Et c'est intéressant de voir que dans ce processus mental et spirituel auquel nous sommes confrontés chaque jour, qui part... D'une intention, d'un appel de Dieu jusqu'à la réalisation, il y a la mesure de ce que nous pouvons faire, il y a ensuite la décision que nous allons le faire, et il y a enfin l'acte que nous faisons. Simple comme ça. Mais quand nous examinons nos vies, dans des domaines qui dépassent simplement peut-être notre intention de demain matin, qui va être d'entendre le réveil qui nous appelle pour aller au boulot, de nous lever et puis de partir, bon, simple ça, enfin pas si simple lundi matin, hein, mais processus relativement simple. Mais si on pense à d'autres domaines de nos vies, et on va généraliser un tout petit peu, on se rend compte que ce n'est pas forcément si simple. Parce que pour revenir à cette femme, des obstacles, on pouvait en trouver, hein, à faire cet acte. La première chose, c'était qu'elle est rentrée chez un lépreux. Ça ne se faisait pas. C'était dangereux. C'était prendre un risque que de rentrer chez quelqu'un qui était fui, qui était banni de la société. Deuxième obstacle qu'on peut évoquer, on peut en trouver plein d'autres. Hein. Pour une femme comme ça, aller verser du parfum sur la tête d'un homme, mais c'est inconvenant, quoi. C'est pas une attitude digne de la part d'une femme. Et puis la rumeur, qu'est-ce qu'on allait penser, dire de sa relation avec le maître à ce sujet-là. Et vous savez qu'il y a eu des bruits qui ont couru ensuite, même des films qui ont été faits à ce sujet-là. totalement malsain et ignoble, blasphématoire. Et puis, s'il faudrait parler devant tous ces gens réunis là, les indignés, et parler même au Seigneur, que dirait-elle ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'a pas prononcé un seul mot. Elle pouvait, elle a voulu, elle a fait tout simplement. Et puis, le prix à payer de se dire, ces 300 deniers, est-ce que je les sors ? Je ne les sors pas ? On peut multiplier les excuses que l'on pourrait trouver. Mais en fait, l'excuse qu'elle ne s'est pas trouvée à elle-même, mais que d'autres ont trouvée pour elle, eh bien, elle est beaucoup plus subtile. Et ce sont les indignés qui l'ont exprimée. Parce que cet argument subtil des indignés qui consiste à dire, mais plutôt que de mettre ces 300 deniers dans du parfum sur la tête de Jésus, on aurait pu le donner aux pauvres. Cette excuse, mais elle a une apparence tellement spirituelle. Elle veut dire tellement de choses, quoi. C'est que je considère vraiment les choses d'en haut, je considère les choses importantes, la générosité, etc. Mais en même temps, cette excuse, elle paraît tellement révélatrice. Et c'est l'évangile de Jean au chapitre 12 qui nous dit que parmi les indignés, il y en avait un. C'était qui cet indigné ? Judas. Il y en avait un, Judas, qui disait ça, non pas tellement parce qu'il se préoccupait des pauvres, il n'en avait rien à faire des pauvres, mais parce que depuis longtemps, il piochait dans la bourse commune des disciples pour sa propre poche. C'est-à-dire que dans cette argumentation si spirituelle et si subtile, et en fait, il y avait la révélation du véritable état de cœur, de la noirceur du cœur humain, qui est l'égoïsme, l'orgueil, la soif de posséder et l'avarice. Et cet argument, on le retrouve dans un autre exemple. C'est toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, dans une confrontation de Jésus avec ses pharisiens, où il va leur faire un reproche qu'on a un petit peu de mal à comprendre parce que ça correspond très très fort à leur culture et à leur tradition. Je vais donner deux mots d'explication. Il leur fait un reproche en leur disant « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister » et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus est virulent vis-à-vis de ces pharisiens. Parce que faisaient ces pharisiens dans leur tradition et dans leur interprétation prétendument spirituelle de la loi ? Ils disaient que si on fait une offrande à Dieu ou pour le temple, qu'on appelait donc corban, on désignait comme corban ses possessions tout entières, je donne tout pour le Seigneur. Eh bien, en fait, dans la tradition des pharisiens, on continuait à jouir, à avoir l'usufruit, comme on dit, de tous ses biens jusqu'à la fin de sa vie. Et ce pharisien aisé qui avait plein de biens, et à côté de cela, ses parents qui étaient dans le besoin, qui suppliaient une aide, eh bien, il disait « Ah non, non, c'est consacré à Dieu. » Et il en jouissait pleinement jusqu'à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, bien entendu, ses parents, depuis très longtemps, étaient déjà partis, dans leur misère, sans avoir pu être assistés. Mais ils avaient construit un espèce de raisonnement hautement spirituel, entre guillemets, disant « C'est consacré à Dieu. » Ces pharisiens, ils pouvaient le faire, prêter aide à leurs parents. Mais ils ne voulaient pas le faire. Et ils ne faisaient pas. Et comme argumentation et comme excuse, il se trouvait une excuse subtile, pernicieuse, qui était révélatrice, là encore, de l'état de leur cœur. Pas étonnant que Jésus les traits de ces pharisiens de race de vipères. Ce qui est très fort dans la bouche de Jésus. Dans ce processus de pouvoir, vouloir, faire, suite à un appel de Dieu, il y a des excuses. Bien sûr, nous ne sommes pas de ceux-là. Bien entendu. Jamais. Généralisons un tout petit peu. Ici, on a abordé une question qui est très particulière, on dirait même marginale. Tout à l'heure, quand Jean-Yves va annoncer l'offrande que nous pouvons faire à Dieu, il va le dire, c'est marginal, ne vous forcez pas, chacun fait comme il veut. C'est vrai, c'est marginal. Mais que ce soit sur la base d'une interpellation particulière, d'un appel particulier que Dieu nous lance, ou selon les attentes peut-être plus générales que Dieu a vis-à-vis de chacun de ses enfants, Dieu nous place aussi face à des décisions à prendre, face à des réponses à donner, à lui donner, face à une obéissance à marquer vis-à-vis de ses attentes, vis-à-vis de son appel. En l'occurrence ici, c'est donne de tes biens, mais c'est aussi, toujours dans le domaine, donne de ton temps. Donne de tes forces pour le Seigneur. Ça peut être rends service, ça peut être fais du bien, toujours un peu dans ce même champ. Mais c'est aussi parle, témoigne de moi. Ou alors plutôt tais-toi à un moment donné de ta vie. Laisse, abandonne, quitte. Pars, reviens, je ne sais pas, toutes sortes d'ordres, et ces mots-là que je trouve ici, ces verbes, ces impératifs, on les trouve dans l'histoire de l'un ou de l'autre des personnages bibliques, Abraham par exemple, va, pars, viens, etc. Ça peut être aussi dans quelque chose de moins concret, ça ne touche pas vraiment à du, chaque fois à de l'agir concret, mais ça touche simplement parfois à des décisions d'ordre spirituel. Abandonne un péché, mets-toi en règle avec ton frère, réconcilie-toi, restaure des relations qui ont été brisées, engage-toi avec le Seigneur dans une vie spirituelle plus intense, cherche, poursuis, progresse. On peut multiplier à l'infini si on généralise ces appels que Dieu nous lance, soit des interpellations personnelles, mais on ne vit pas que sur la base d'interpellations personnelles de la part de Dieu, on vit sur la base des interpellations de sa parole que nous avons entre les mains. Lisez l'épître à Timothée, avec le groupe de formation, je me suis amusé à relever les impératifs de l'épître à Timothée. Mais c'est fascinant de voir l'apôtre Paul, comment il dit, voilà, et ce sont les invitations de Dieu dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale, etc., que Dieu nous lance. Et il y en a de multiples. Eh bien, mon interrogation, c'est de nous dire, bon, en un mot, ça se résume à obéis. Obéis. Et chaque fois que Dieu nous lance ces interpellations, l'Écriture nous dit aussi que Dieu ne nous tente pas, c'est souvent traduit dans nos Bibles, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Mais vous savez que ce mot tenter veut dire Dieu ne nous teste pas au-delà de nos forces. C'est-à-dire que si on se préoccupe de la question du pouvoir, est-ce que je peux ? Est-ce que Dieu ne me demande pas des choses totalement impensables et impossibles à réaliser ? Et que finalement c'est un Dieu d'une exigence tyrannique. Non, Dieu nous dit, il ne nous teste pas. C'est-à-dire qu'il ne nous place pas face à une invitation à laquelle il nous dit, tu veux ou tu veux pas ? Tu vas faire ou tu ne vas pas faire ? Tu vas obéir ou tu ne vas pas obéir ? Dans tous les domaines que j'ai évoqués, qui sont multiples et on peut généraliser à l'infini. Bien, l'Écriture nous dit que Dieu ne nous teste pas au-delà de nos forces. Donc le pouvoir, nous l'avons. Reste à vouloir. Et alors là, il faut quand même avouer, et je m'inclus, que nous sommes immensément ingénieux dans les excuses à nous trouver. Les excuses multiples, parfois les plus grossières. J'ai 37,6, j'ai le nez qui coule. Ah, je ne peux pas aller au culte. Je suis fatigué de ma journée de retraité. Je ne peux pas venir à l'étude biblique ou à la réunion de quartier. L'introduction de ce culte, Jean-Yves a parlé de cette invitation que Dieu nous lance tous à être des adorateurs de Dieu, de faire ce sacrifice de la louange. Sacrifice. Je prendre part à la louange au sein du culte, élever ma voix dans une prière ou quoi que ce soit, mais ne me rendez pas compte la blessure à ma timidité personnelle que ça représente. Insupportable. Et David dit qu'il n'offrirait jamais à Dieu des sacrifices qui ne lui coûtent pas. Et nous sommes là à chercher les excuses pour obéir, pour faire, pour décider de suivre le Seigneur là où il nous indique le chemin dans de multiples domaines. Pouvoir, souvent nous le pouvons. Vouloir, c'est un autre problème. Mais plus ingénieux encore, il y a ces excuses un petit peu à connotation spirituelle que nous nous trouvons, et nous sommes très forts pour cela. Ces excuses qui en fait vont marquer le fond de notre âme. Beaucoup ont participé à un camp de vacances chrétien dans lequel nous avons été engagés pendant de nombreuses années, et chaque fois que nous nous retrouvons un peu avec les cadres de ce camp, nous nous racontons, enfin pas chaque fois vraiment, mais très souvent, nous nous racontons une expérience que nous avons eue une fois. Dans ce camp, on fait de la voile. Quand on fait la voile, on descend les bateaux. Alors, tout le monde a fait l'expérience que descendre, c'est facile. Quand on a fini de la voile, il faut remonter les bateaux. Ça, c'est plus difficile. Ceux qui en ont expérimenté la chose savent que c'est aussi une expérience un peu test de la bonne volonté de chacun, de l'esprit communautaire. Et il y en a certains qui sont devenus très très forts pour se défiler à ce moment-là, pour se trouver mal, avoir mal à une jambe, avoir ceci ou cela. Et on se raconte donc régulièrement cette expérience qu'on avait eue lorsqu'il fallait remonter des bateaux avec une jeune fille missionnaire américaine qui marchait derrière et ne poussait pas ses bateaux dans le sable. C'est dur, ça fatigue bien sûr. Et on lui a dit, mais tu ne peux pas pousser un peu, aider quoi, non. Mais je suis missionnaire. Indigné, et sérieusement. Les bras nous en ont été coupés. Et depuis maintenant, peut-être 20 ans, on se raconte cette histoire. On l'oubliera un jour, que le Seigneur nous aide. Je suis missionnaire. C'est-à-dire, sous-entendu, je suis ici en France pour des tâches spirituelles, pour annoncer l'évangile aux Français, pas pour pousser des bateaux sur une plage d'un camp chrétien. Quand on pense que Jésus, dans ces mêmes journées que j'évoque ici, la veille un peu de sa mort, il avait réuni ses disciples et il a pris une bassine d'eau et il s'est mis à leur laver les pieds. La tâche que l'on réservait habituellement aux esclaves. Et ses disciples même s'en offusquaient, comment toi le maître? Et il leur dit, comme j'ai fait, faites de la même façon. Faites de la même façon. C'est ainsi que une partie de l'église officielle, de l'église historique, celle avec laquelle très rapidement nous avons, je pense, perdu beaucoup de points communs, s'est lancé dans ce qu'on appelle le mouvement du monachisme. Des gens qui se sont dit, nous sommes faits pour prier, nous sommes faits pour méditer, pour être dans la contemplation de Dieu. Et ils se sont isolés sur des montagnes, certains même se sont mis sur des colonnes pendant toute leur vie pour être vraiment isolés du monde, etc. C'est allé très très loin. Et ils se sont complètement coupés de la société, complètement coupés de tout service, de toute nécessité d'obéir à Dieu, mais sous un prétexte tellement spirituel. Nous sommes ici, mais pour prier, pour méditer. Et il peut y avoir aussi dans ses excuses spirituelles une fuite lorsque l'on perd quelque chose qui est important dans l'Écriture, dont je vais parler dans quelques instants. Il y a des personnes qui ne cessent pas de ne pas décider parce qu'ils sont à la recherche de la volonté de Dieu et qui finalement restent une éternité à la recherche de la volonté de Dieu pour leur vie ou pour eux-mêmes ou pour décider tel ou tel événement et qui pourraient, mais qui ne veulent pas sous une excuse hautement spirituelle, je recherche la volonté de Dieu. Alors que dans l'Ecclésiaste, on a ce texte, je vous le lis dans la version en français courant que j'ai trouvé vraiment excellente. « Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi, ce que Dieu met devant toi, que tes yeux voient. Utilise ta force, fais-le, dans les tâches les plus simples. Balayer la cour, faire le ménage ou quoi que ce soit. Comme dans les tâches spirituelles aussi, tu as une occasion. » Ne réfléchis pas 15 ans à savoir si c'est la volonté de Dieu. Mais dis-toi que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur met cela devant toi et que ça devient rapidement un fardeau pour toi, un fardeau immédiat, bah fais-le. Tu peux. Bah veux et fais. Voilà. Tout simplement. Et ne cherche pas 1000 excuses. Je prie, je recherche la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être dans la précipitation et l'irresponsabilité, faire n'importe quoi, la dispersion, la perte du sens des priorités. L'apôtre Paul, et j'ai failli choisir ce texte pour la prédication de ce matin, nous parle dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 31, d'une voie par excellence. Il dit « Je vais vous montrer une voie par excellence ». Quand on lit ça, excellence, une voie par excellence, dans la bouche de l'apôtre Paul, je me dis « Ah, intéressant quand même ». Parce que je me dis « L'excellence, j'aimerais la poursuivre, j'en suis tellement loin, mais j'aimerais la poursuivre l'excellence. J'aimerais la viser l'excellence ». Et l'apôtre Paul détaille que dans le ministère correspondant à des dons que le Saint-Esprit nous a donnés, il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier sans laquelle tous ces dons, ces ministères, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu sont totalement zéro, au point qu'il dit, c'est un airain qui résonne, eh bien il dit qu'il y a un équilibre dans l'exercice, mais aussi à côté de l'exercice de ces ministères, c'est celui de l'amour. Entendons-nous bien, quand l'Écriture parle d'amour, elle ne parle pas d'un vague sentiment, d'une émotion qui nous habite ou quoi que ce soit. Aux yeux de l'Écriture, l'amour, c'est très simple. Ne cherchons pas longtemps. C'est l'intention du bien des autres. La préoccupation qui nous prend du bien des autres, tout simplement. Que ce soit dans la famille, dans la société, dans l'Église, etc. L'amour, c'est cela et d'abord. Et l'apôtre Jean, dans la première épître de Jean au chapitre 3, le verset 18, résume ce à quoi l'amour correspond, ce à quoi il porte. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est ça l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à viser dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous abriter derrière le fait que je suis dans une tâche spirituelle si nous n'avons pas cet équilibre qui est de nous dire, mais c'est parce que j'aime les autres et que j'ai la préoccupation des autres. Il y a les ministères de la parole que l'apôtre Paul développe, mais il y a aussi le service. Je ne peux pas m'abriter derrière des préoccupations hautement spirituelles, le témoignage, la prière, etc., pour m'exonérer de ce qui correspond au réel service pour les autres aussi, qui est parfois, tout simplement, me mettre à passer une serpillière ou une chose comme ça. Mais mes exemples ne sont pas limitatifs, hein. Prenez bien en compte. Ce n'est pas parce que nous avons en ce moment pas mal de poussière sur notre sol à cause de travaux que je prêche là-dessus, bien entendu. Nous avons besoin de faire attention à ce que, dans ces questions, nous nous posions vraiment la bonne question. Je pourrais parler de l'eunuque éthiopien à propos du baptême aussi. Mais qu'est-ce qui m'empêche, tout simplement, lorsque le Seigneur met devant moi quelque chose, une tâche d'amour pour les autres, une tâche de générosité, un commandement auquel obéir, une injonction pour ma vie, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine de réalisation matérielle. Mais qu'est-ce qui m'empêche ? Je peux ? Eh bien, je veux et je fais, tout simplement. Parce que dans ce rendez-vous entre ces trois verbes, se trouvent aussi révélés des pans entiers de notre personne. On disait à propos de Judas son avarice, mais souvent c'est aussi notre orgueil, notre égoïsme, une préoccupation excessive de nous-mêmes, de notre confort, de notre tranquillité, de nos aises, qui font que, et nous savons enrober cela d'un message souvent spirituel, parce que notre cœur, l'Écriture nous dit, est tortueux. Et nous avons besoin peut-être de regarder parfois au plus profond la réalité de notre cœur face aux invitations de Dieu. Est-ce que, si je peux, il y a une raison vraiment valable, évidente, pour que je ne veuille pas ? On va terminer, avant de célébrer la scène, par l'exemple de Jésus. Je vous dis, c'est totalement dans le contexte du don de Christ sur la croix que tout cela se passe. Et le Seigneur, il veut travailler dans nos cœurs pour que nous devenions conformes à l'image de Christ. Lui qui est venu et qui a dit « Je suis venu au Père pour faire ta volonté, la volonté de son Père. » Et quand on observe le parcours de sa vie, on voit combien de fois il aurait pu se replier en disant « Non, non, j'ai besoin de me tenir à l'écart, de prier. » Il l'a fait. Mais à ce moment-là, quand il y avait une invitation de Dieu à avoir la compassion vis-à-vis des foules qui étaient devant lui, languissantes, eh bien, il a renoncé et il a fait. Et à un autre moment, il a prié. Il y avait chez lui cet équilibre parfait entre la piété personnelle, le ministère qu'il avait à remplir, la parole à annoncer, et le bien qu'il a fait autour de lui, le service qu'il a rendu à son propre peuple. Quelle crédibilité aurait-il eu s'il n'avait pas agi de cette façon ? Et Jésus vivait comme un parfait épanouissement, un parfait accomplissement de ce processus de pouvoir, vouloir et faire. Et il l'a vécu, et il en a donné témoignage, jusqu'à l'extrême. Il savait qu'il était sur cette terre pour faire le don de sa vie. Il savait aussi qu'il avait des échappatoires sur la croix. On est témoin dans l'Écriture de ce combat dans son cœur à Gethsémané par rapport à cette échéance. Il pouvait appeler des légions d'anges pour le descendre de la croix, pour terrasser ses soldats romains et ses accusateurs juifs qui étaient devant lui, Pilate qui était là à ne pas savoir que faire, etc. Mais Jésus-Christ, il savait qu'il était là, que c'était la volonté de son Père. Il avait cette capacité d'amour de se donner lui-même jusqu'à l'extrême. Il l'a voulu et il l'a fait. On a là un témoignage de ce processus que Jésus-Christ a vécu à la perfection. Et le faisant, il disait dans le discours à la chambre haute, toujours dans les mêmes circonstances, des moments qui précédaient sa mort, il disait que sa joie était parfaite en accomplissant ça. Parce que lorsque Dieu nous a montré il y a quelque chose que nous devons faire dans un domaine ou un autre, j'en ai évoqué de multiples, et vous pouvez les multiplier encore, lorsque c'est Dieu qui nous appelle, qui nous le montre, ou qui nous le montre tout simplement dans sa parole, et que nous en avons le pouvoir de le faire, eh bien si nous décidons de le vouloir, et si nous le faisons, nous sommes là dans un parcours d'obéissance qui est le véritable accomplissement de notre nature humaine sur cette terre. De réaliser le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous et de le réaliser pleinement avec notre joie qui est parfaite à ce moment-là. Et Jésus-Christ, en même temps qu'il versait des larmes de combat dans le jardin de Gethsémané, il était habité par une joie parfaite parce qu'en allant se donner sur la croix, il accomplissait véritablement l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait appelé sur cette terre. C'est Dieu, lui-même, qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Je vous invite à méditer quelques instants sur cet exemple de Jésus-Christ, sur les implications que cela peut avoir pour nos propres vies. Et Jean-Yves, dans ce contexte d'évocation de ces derniers moments aussi du Christ, de son message, de son exemple, viendra partager le pain et nous le distribuer.